suivante. Donc, Hubert Blanchard a donné procuration à Antoine Di Paolo. Pierre Achard a donné procuration à Michel Bisaccia. Michel Cosset a donné procuration à Jacques Pellegrin. Hugo Rodriguez d'Assouza a donné procuration à moi-même. Raymond Repellini, procuration à Christine Gueuzens. Christophe Talia, procuration à Mireille Papin. Et Jean-François Saru, procuration à Gilbert Zavrosa. Et normalement, Marie-Jeanne Scherrer devrait nous rejoindre un peu plus tard. Est-ce que Mireille Papin veut bien être la secrétaire de séance? Eh bien, donc, c'est acté. Et on va pouvoir passer à la première partie, donc, de ce conseil municipal. C'est l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Avez-vous des questions par rapport à ce procès-verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Nous avons un point très important pour tout ce qui est finance et je vais donc passer la parole à Michel Bisaccia.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, donc je vais vous faire une petite présentation rapide du compte administratif 2023 et du budget primitif 2024. Voilà. Alors, pour ceux, je suis désolée pour les élus qui sont déjà à la commission finances parce qu'ils ont déjà entendu la même chose, mais je vais faire relativement rapidement. Voilà. Donc, effectivement, ce soir, nous devons voter les deux choses. Le compte administratif 2023 qui est, je vous rappelle, le bilan de l'année N-1, de l'année écoulée, c'est-à-dire on fait les comptes de ce qu'on a dépensé et de ce qu'on a reçu et on en tire les conséquences, enfin on tire les chiffres et on voit après. Et c'est effectivement le résultat du compte administratif qui nous permet de préparer le budget 2024 et de vous le présenter ce soir, en fonction bien entendu de ce qu'on souhaite faire et des possibilités financières que nous avons. Hop, merci Frédéric. C'est un peu ce qu'on a dit depuis le début de l'année, qu'on essaye de faire une gestion maîtrisée au service des investissements. Tu peux passer à la slide tout de suite après. Voilà, avec trois points. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, hein, bien sûr. Ça fait des années et des années qu'on redit toujours la même chose, mais effectivement, on est obligé de toujours surveiller la moindre des dépenses et de vraiment restreindre les besoins, les services. Parce que il ne faut pas que nos charges de fonctionnement dérapent. Et par contre, on essaye bien entendu d'optimiser les recettes. Alors, sur le fonctionnement, l'optimisation des recettes, elle est difficile, hein, parce que ce sont souvent, mais on a le levier qui était le levier des impôts et on en reparlera tout à l'heure. On essaye d'augmenter la capacité d'autofinancement. Alors, je vous rappelle rapidement ce qu'est l'autofinancement. C'est la différence en fonctionnement entre les dépenses et les recettes, et normalement on doit avoir un chiffre positif, et bien sûr qu'on l'a puisqu'on a déjà tous les excédents qu'on a eu les autres années, qu'on n'a pas forcément utilisés et qui sont notre réserve, auquel s'est ajouté le résultat de l'année 2023, et ça nous fait un autofinancement, on verra le montant tout à l'heure. Et puis bien entendu, on va essayer de poursuivre les projets. Vous savez qu'on a deux grands projets pour l'instant, qui sont bien entendu la fin de l'aménagement et de l'agrandissement de l'école Jules Ferry, et puis bien entendu la suite de l'aménagement de l'îlot 2. Je vous rappelle, c'est l'îlot du tabac, qui va nous permettre effectivement de réaménager encore un petit peu la place du centre-bourg. Alors, le compte administratif 2023. Vous voyez, donc les dépenses, on a dépensé 9 38 322 euros pour 12 156,44 € de recettes. Donc on ressort cette année en fin 2023 avec un excédent de 3 118 222. C'est bien entendu pas l'excédent de l'année, c'est ce qui nous restait des autres années, plus cette année, on a pratiquement économisé 1 million entre nos recettes et nos dépenses. Pas tout à fait, puisque l'année dernière, on était à 2 millions 3. Là, on est à 3 118 000. Donc, c'est quand même un résultat satisfaisant. C'est un des résultats qu'on n'a pas atteint depuis longtemps, mais qui, bien entendu, nous est nécessaire, parce que vous verrez tout à l'heure le montant des investissements qu'on a prévu cette année, qui est aussi très important. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, pas beaucoup de nouveautés. Les charges de personnel On retrouve à peu près la même structure, que ce soit en dépenses et en recettes, que les années antérieures. On a toujours, bien entendu, nos charges de personnel pour 62%, mais ça, c'est structurel. Hein. On ne pourra pas, tant qu'on a, qu'on touche pas à nos services, et on n'a pas du tout l'intention d'y toucher, on répète souvent et toutes les années qu'on a beaucoup de services, et qui dit beaucoup de services dit beaucoup de personnel. Et forcément, on se retrouve avec une charge de personnel qui est trop importante pour une commune de notre strate, puisque normalement, on devrait être à 56-57% de charge de personnel. Vous voyez, donc on en a largement 5% de trop. De trop par rapport à la strate, mais pas de trop par rapport à nos services. Et bien entendu que ça plombe le reste du budget. Mais bon, qui dit service dit qualité de service apporté à la population. Et c'est aussi ce qui fait partie de l'attrait de Saint-Priest-en-Jarret et du bien-être qui est apporté à nos habitants. Les charges générales sont à peu près stables. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'impact de l'augmentation de l'énergie. L'électricité, bon, on verra sur l'année l'impact de l'extinction de l'éclairage public. Par contre, on a une petite inquiétude sur 2024, puisqu'au 30 juin s'arrête notre contrat qui était bloqué de gaz. Donc ça va se rediscuter et on espère que l'augmentation ne sera pas trop importante. Les autres charges, bon, bah, c'est pareil. Les charges financières, alors c'est que 1%, puisque je vous rappelle qu'en fonctionnement, on n'a que les intérêts. Donc les intérêts, on avait pendant de nombreuses années eu la chance d'avoir des emprunts et des taux qui étaient relativement bas, même très bas. Et effectivement, les emprunts, c'est parce que les intérêts, c'est parce qu'ils nous coûtent le plus cher. Alors comment on a financé ça? Comment on a financé déjà le budget et puis réussi à avoir presque 1 million d'excédents? Eh bien, c'est les contributions directes qui sont passées à 37%, alors que pendant très longtemps, ça a été plutôt aux alentours de 28-30%. Et ça, c'est le résultat, bien entendu, des hausses des impôts, des hausses des taux, mais pas seulement, ça a été aussi le résultat des hausses des bases d'imposition. Vous savez que toutes les années, ce sont les services fiscaux qui décident de l'augmentation des bases. Et l'année dernière, on a eu une très grosse augmentation qui était près de 7%. Et cette année, elle est à 3,9%, je crois, enfin pratiquement 4%. Voilà. Donc, on a quand même décidé cette année, je peux le dire d'ores et déjà, donc bon, on le verra tout à l'heure dans la délibération, d'augmenter d'un demi-point. On était à 38,5. Alors, ce n'est pas de la température, hein, mais je le répète, 38,5, ce n'est pas le taux communal. Ça a été l'addition du taux communal et du taux départemental. Donc, ça a fait augmenter, bien entendu, très fortement le taux. On était à 38,5 et on vous proposera tout à l'heure en délibération d'augmenter d'un 0,5 point, c'est-à-dire de passer à 39%, mais ce qui représente une augmentation de 1,2%. Alors, c'est pas très élevé, mais moi, on a pensé que c'était mieux d'augmenter assez régulièrement, mais de peu, parce que déjà, ça fait un effet boule de neige, un effet exponentiel, hein, puisque nos bases augmentent, nos taux augmentent. Donc, l'année d'après, on repart sur des bases qui sont plus importantes, sur un montant qui est plus important. Et puis, il vaut peut-être mieux faire comme ça que de ne pas augmenter pendant des années et puis être obligé de faire Saint-Étienne cette année, d'augmenter de 15%, parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas bougé leur taux d'imposition. On l'a testé et ce n'était pas forcément un résultat très probant. Donc, vous voyez, cette année représente quand même 37% de nos recettes. L'attribution de compensation de Saint-Étienne Métropole, ça ne bouge pas parce que ce sont des chiffres qui sont fixes, qui ont été décidés. Les autres taxes, bon, c'est les autres taxes qu'on touche sur différentes choses. Vente des produits et services pour 5%, vous voyez, c'est pas très important, mais c'est là où on retrouve le montant de ce que les gens payent à nos services, que ce soit la cantine, le pôle enfant-jeunesse. Donc, vous voyez, c'est quand même, on voit quand même que bon, les services ont un coût qui est important, parce que si on voulait vraiment mettre les tarifs au coût du service, ce ne serait pas possible. Hein. Ce serait des services que personne n'utiliserait. Et on voit que l'excédent reporté nous représente quand même 19%. C'est-à-dire que dans les 3 118 000, il y a une part importante de ce qu'on avait déjà les autres années qu'on avait réussi à garder. Alors, la suivante, Frédéric. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qui est important. Alors, j'ai fait qu'un slide sur les charges générales. J'ai pas détaillé comme l'année dernière. Donc, on voit que entre 2022 et 2023, l'augmentation a été quand même relativement légère hein, sur des sommes comme ça. C'est pas 2 300 euros, c'est pas 2 200 000 euros, c'est pas énorme. Vous voyez qu'on est encore en dessous de des charges qui étaient représentées en 2017. Donc on a encore vraiment beaucoup contenu. Alors bien sûr, il faut pas compter la pointe de 2020, c'est l'année du Covid où aucun service ne fonctionnait, donc forcément on a eu moins de charges. Alors, j'ai mis en dessous les prévisions 2023 et les prévisions 2024 parce qu'il y a toujours un delta entre le budget primitif et le compte administratif. Le compte administratif, c'est des sommes qu'on a réellement dépensées. Donc ça, c'est factuel. Hein. On a fait les additions de toutes les factures et de tout ce qu'on a touché et on retrouve ça. Dans le budget, ce sont toujours des prévisions. Donc forcément, vous voyez que le budget qui est prévu en 2024 est pratiquement supérieur d'un million au budget. Mais pourquoi ? Parce qu'on a tendance à gonfler les dépenses, parce que c'est une prévision et qu'il faut être prudent, et à minimiser les recettes. Après, bien sûr, tout ce qu'on ne dépense pas et tout ce qu'on touche en plus en recettes vient bien entendu dans notre excédent. Donc c'est pour ça qu'on a ce delta de chiffres qui n'est pas forcément compréhensible quand on voilà, quand on voit pas, on ne comprend pas la mécanique. Ensuite, on revient sur l'excédent de fonctionnement. Hein. Vous voyez que quand même, il est maintenant à 26% du montant de nos recettes, ce qui est quand même très, très important, et que c'est satisfaisant à une époque où on a quand même stagné entre 12 et... On voit qu'au fur et à mesure des années, on essaye d'augmenter notre excédent. On avait dit, on verra tout à l'heure dans l'investissement, que ça représente quand même une part importante, et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Parce qu'il faut savoir, si on veut financer des investissements, si on n'a pas d'autofinancement, on n'a qu'une solution, c'est l'emprunt. Et comme en même temps, on veut diminuer notre charge de dette, il vaut mieux augmenter notre autofinancement et on retrouve avec de l'argent qu'on n'emprunte pas. Voilà. Sur l'investissement, on voit qu'on a 2 996 336 de dépenses pour des recettes d'un montant de 3 220 517 euros. On se retrouve avec un excédent de 224 181 euros. Alors, l'excédent d'investissement a moins d'importance que l'excédent de fonctionnement parce qu'en investissement, vous savez que les opérations se passent sur plusieurs années. Jules Ferry, c'est pas une seule année budgétaire, ça, c'est deux. On l'a fait sur l'année dernière, on le fera sur cette année. C'est des programmes qui se continuent. Alors, il y a des années, on peut avoir un déficit d'investissement parce que cette année-là, on peut avoir un décalage entre des factures qu'on a payées fin d'année et des subventions qui tomberont que l'année d'après. Ça, c'est moins grave. Et là, c'est plutôt bien d'être en excédent, mais vous voyez que ce ne sont jamais des montants très importants parce que c'est juste un delta entre ce qu'on a dépensé à l'instant T au 31 décembre et ce qu'on a encaissé. Donc pour les dépenses, on voit que les travaux de Jules Ferry, ça a été bien entendu la plus grosse part de nos investissements en 2023, hein, puisque ça représente 52% de nos dépenses d'investissement de 2023. On a bien entendu pour 26% les remboursements d'emprunt. Là, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a vu en fonctionnement, parce que bien entendu, c'est le capital qu'on rembourse en investissement. Après, on a un peu minimisé les autres travaux. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. On a fait des choses en régie, vous voyez, pour 3%. Je vous rappelle que les travaux en régie, c'est les travaux qui sont faits par nos agents. Hein. Donc, on paye. Et puis, l'avantage de les passer en travaux en régie, c'est que tous les matériaux, tout ce dont on a besoin, je vais y arriver, pour faire ces travaux, que ça a été par exemple l'aménagement du vestiaire et du bar du foot, ça a été la fin de la salle de danse, tout ça, les matériaux sont passés en investissement et donc dessus on peut récupérer la TVA, ce qui est plus intéressant. Et puis on a les subventions d'équipement. Alors, les subventions d'équipement, c'est bizarre, c'est en dépenses et des subventions, mais en fait c'est tout ce qu'on paye au ciel. Vous savez, quand on fait des travaux, le ciel participe et après, c'est même le ciel participe et après nous on paye notre part, mais ça s'appelle des subventions. Alors, on a fait de l'acquisition de matériel, mais pour 5%, et des travaux de bâtiment, vous voyez, pour 1%. Donc, bien entendu, c'était Jules Ferry. Alors, comment on a financé en recettes? Vous voyez, notre excédent d'investissement reporté, qui était quand même ce qu'on a pu basculer du fonctionnement à l'investissement, représente quand même 28% de nos recettes. On a eu l'emprunt, bien sûr, pour 15%, en sachant que l'année dernière, on a tiré que 500 000 euros. On avait prévu, on avait déjà un reliquat de l'année d'avant. À chaque fois, on décale parce qu'en fait, on tire pas l'intégralité de l'emprunt parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas un grand besoin. Et donc, on a pris qu'une petite partie en 2023 qu'on reporte sur 2024 auquel on rajoutera un emprunt dont on va avoir besoin en 2024, on verra tout à l'heure pour le budget, mais c'est pareil, si on n'en a pas besoin, au cours d'année, on ne le tirera pas. Voilà. On a bien entendu l'amortissement des immobilisations, ça c'est une opération d'ordre, et puis on a les subventions, sachant que sur l'année 2023, on a inscrit une subvention essentielle, c'est le plan de relance métropolitain. On a mis la totalité de la subvention qu'on va pouvoir toucher de Saint-Étienne Métropole parce que pour l'instant, on n'a toujours pas le résultat de nos autres demandes de subvention, que ce soit région, que ce soit département, tout ce qui est fonds verts, tout ça, on n'a encore pas la réponse. On l'aura, je pense, d'ici 2 ou 3 mois, enfin, j'espère. Voilà. Et bien entendu, on a pu le faire sur aussi des cessions de terrain qui sont... Enfin, ça, on le verra surtout sur 2024. Voilà pour le compte administratif. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, plutôt une année plutôt bonne, mais bien entendu, toujours nos problèmes structurels et qui font que on est toujours obligé de faire attention. Et puis, on a des incertitudes sur, bien entendu, sur le prix de l'énergie, sur des choses comme ça qui peuvent... Et puis, le personnel, je ne l'ai pas dit, mais parce que je le dis à chaque fois... On retombe toujours sur les mesures qui sont prises par l'État et qui nous impactent directement nos finances communales. Parce que quand on décide d'augmenter, comme ça a été fait cette année au 1er juillet, de 5 points les indices des fonctionnaires, c'est la commune qui paye et ça bien sûr, ça fait très, très important. Alors, sur le budget primitif 2024, en dépenses... Donc, c'est là où on retrouve nos 10 032 000, qui font quand même 1 million de plus que ce qu'on a dépensé l'année dernière. Donc, c'est pas qu'on a du tout l'intention de dépenser 10 millions. On va essayer de pas les dépenser, justement, d'essayer d'être un peu plus rigoureux. Les charges de personnel pour 61%. Donc, vous voyez, ça bouge pas, pratiquement pas par rapport à l'année dernière. On a bien entendu prévu une augmentation parce qu'il y a les changements d'indices, les changements de grades, les changements de choses comme ça, ce qu'on appelle le GVT. Et forcément, ça fait progresser. Et pour peu que l'État trouve encore le moyen de... Souvent, il y a des catégories qui sont revalorisées. Il y a des choses comme ça qui sont décidées par l'État et qui nous impactent directement. Les charges générales pour 23%, c'est là où on retrouve tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner la mairie, en chauffage, en électricité, en documentation, en fourniture, enfin tout ce qui nous permet de vivre. Les autres charges pour 9%, les charges financières ne bougent pas et les opérations d'ordre sont pour 6%. Alors comment on va financer ces dépenses à ce montant-là? Vous voyez qu'on augmente en contribution directe. Alors on augmente parce que l'année dernière, donc c'est ce que j'explique, la masse a été plus importante, donc ça se répercute cette année, puisque les augmentations de base et notre petite augmentation de taux vont se faire sur cette nouvelle base. Donc on pense toucher 42% de... Enfin, ça représentera ce qu'on touchera en contribution, on représentera 42%. L'attribution CM, toujours pareil, ça ne bouge pas. Notre excédent reporté, toujours, c'est-à-dire que sur les 3 millions et quelques qu'on a eu d'excédent de fonctionnement, on a quand même, et on le verra tout à l'heure, affecté une somme importante en investissement pour pouvoir financer des investissements qui, cette année, sont assez exceptionnels. Dotation et participation, ça, c'est tout ce qu'on touche des autres organismes et puis d'autres taxes, donc qui font ensemble la somme de 10 032 069. Il n'y a pas un gros écart avec le budget 2023 sur le fonctionnement. Vous verrez que sur l'investissement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, sur l'investissement, on a une année essentiellement consacrée, bien entendu, à la fin des travaux de rénovation et d'extension de Jules Ferry, au départ des travaux d'aménagement du centre-bourg et Pora avec l'acquisition de la fin des acquisitions de l'îlot 2. La deuxième tranche d'installation de la vidéosurveillance qui débutera en fin d'année, parce que là, on est en train de finir la première tranche, je crois, c'est ça, Antoine? Oui, voilà. Et puis, si tu peux recliquer, parce que la deuxième partie doit se mettre... Voilà. Mais alors ça, c'est les gros travaux qu'on va finaliser. Mais bien entendu, il y a d'autres projets hein, sur la commune. On ne peut pas non plus se concentrer uniquement sur deux projets. Alors on avait mis les travaux de rénovation de Saint-Priest et Loisirs, mais bon, on avait dit que c'était si possible et qu'on voulait faire le troisième dossier du plan de relance. Je ne sais pas si Christian, tu veux expliquer ou si j'explique pourquoi on peut pas, on le fera peut-être pas, enfin sûrement pas. Pas en 2024 en tout cas.
Oui, on l'a mis et je l'avais présenté lors des rencontres Mounardes comme le dossier de l'année pour bénéficier du plan de relance. Le plan de relance, ça veut dire que 5e métropole paye la moitié du reste à charge communale. Il y avait une contrainte, c'est qu'il fallait que ce dossier soit finalisé pour le 30 juin, travaux commencés. Parce que le plan de relance va s'arrêter au 30 juin pour l'ensemble des 53 communes. Donc, on a travaillé de façon très rapide avec le choix d'un cabinet architecte, puisque sur les trois, on a retenu un cabinet lyonnais qui s'appelle MDR, qui nous a fait un excellent travail de planification, c'est-à-dire que d'après eux, on pourrait commencer les travaux avant le 30 juin, et puis ils ont fait des estimations sur le projet lui-même. Quand on connaît l'espace loisir de la Bargette, il y a au moins deux choses qui sont évidentes, c'est la toiture et le chauffage, et puis on avait besoin d'autres capacités de stockage et de rangement, et donc c'est une réflexion globale. On avait budgété 540 000 euros pour ce projet, et d'après les estimations donc, de l'architecte, il y a deux options, enfin deux projets qui se tiennent à 50 000 euros près. On est à 1 700 000 euros hors taxes, ça veut dire 2 millions d'euros TTC. Donc on a dit, ben non, on ne le fera pas cette année. Ce n'est pas possible, parce que même si on va chercher 500 ou 600 000 euros à Saint-Étienne Métropole, il faut que nous aussi, on sorte 500 ou 600 000 euros. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que commencer les travaux au 30 juin, les travaux vont s'échelonner sur un an. Ça veut dire que pendant un an, on va condamner l'espace loisir. Et ça ne s'improvise pas. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que ce dossier, on va le garder. On aura des budgets qui seront beaucoup plus affinés, puisque là, c'était des estimations approximatives de l'architecte. Et on aura à la fin de l'année 2024 pour programmer ces travaux en 2025 et surtout voir avec les utilisateurs, en particulier les associations sportives, mais il y a également tous les événements qu'on y organisait, comment on va pouvoir faire. Donc voilà, c'est un dossier qui est reporté potentiellement en 2025, là aussi à une condition, c'est que budgétairement, on puisse l'assumer. Alors on n'aura plus le plan de relance, c'est vrai, mais on pourra peut-être avoir des subventions au niveau du département, de la région et de l'État. Donc voilà pourquoi on l'avait mis, on l'a présenté comme le dossier de 2024, mais qu'on ne va pas s'engager dans une dépense à ce niveau-là. D'autant qu'on a, ben bon, je finis là-dessus, hein, donc on se reconcentre sur les problématiques du tennis et du padel, là aussi à la Bargette. Vous savez qu'on a un des deux cours qui est en train de s'effondrer en termes de couverture. Donc là, on attendait ben, ce soir le vote du budget pour attaquer tout de suite la démolition, 47 000 euros, qui n'était pas budgété. Et puis, on a rencontré le président du tennis pour voir avec eux qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va découvrir un cours, donc est-ce qu'ils peuvent l'utiliser en cours extérieur. Et puis, attaquer les travaux d'études et puis réalisation d'un ou deux tennis le long du Furan et un terrain de padel. L'idée étant de déplacer les deux tennis qu'on a derrière le NEC sur le site de la Bargette.
Voilà. Et puis, les travaux, ce qu'on met, les travaux d'investissement courant, c'est bien entendu une somme qui est à prévoir. Pour, ben, il y a toujours quand même des choses à faire dans les bâtiments communaux. Il peut y avoir de la casse dans notre flotte automobile ou dans nos différents matériels qui nous servent à travailler. Donc voilà comment on a réparti ça. Ben, on retrouve encore ben, donc un budget de 7 588 235. C'est quand même un budget un peu à une année charnière parce que c'est quand même un budget qu'on ne reverra peut-être pas de sitôt. Voilà, parce que c'est quand même très important. Alors il est très important cette année parce qu'effectivement on va finir de payer les travaux de l'école Jules Ferry et puis on a donc aussi ce qu'on doit à Epora et ce qu'on finance. Enfin, ce qu'on a mis en provision. Voilà. Et puis, bon, le financement cette année, vous verrez, il est essentiellement par l'emprunt et par l'autofinancement. Parce que les subventions, ben, on a mis ce qu'on connaît, c'est-à-dire encore une fois la subvention de Saint-Étienne Métropole, mais on n'a pas encore la connaissance des autres subventions. Donc tout ça, bien entendu, ça sera un plus en recettes. Donc ça peut être aussi un moins en emprunt. Et puis à partir de l'année prochaine, on va avoir un retour qu'on appelle le fonds de compensation de TVA, parce qu'on a commencé les travaux l'année dernière, donc en 2022, ce qui veut dire qu'en 2023, ce qui veut dire qu'en 2025, on va toucher toute la partie TVA qu'on a payée sur les 2 millions de travaux qu'on a payés l'année dernière. Donc ça représente, si je ne dis pas de bêtises, 18%, quelque chose, 18,6 je crois, ou quelque chose comme ça. Pas 20%, l'État ne nous rembourse pas les 20%, mais nous rembourse 18,6% de la TVA. Donc ça va quand même faire aussi l'année prochaine et l'année d'après, puisqu'on a fait sur deux exercices, parce que la TVA, l'État nous la rembourse avec 2 ans de retard. Voilà. Donc cette année, effectivement, c'est une année un peu spéciale. Bon, donc les travaux de Jules Ferry représentent l'autre moitié de nos budgets, de notre budget, puisque on les finance. Il faut bien les inscrire, la totalité des travaux, donc une moitié l'année dernière, une moitié cette année. Des autres bâtiments, on a toujours EPORA, bien entendu, pour, vous savez, on provisionne à peu près 100 000 euros chaque année pour qu'à la fin de l'opération, on n'ait pas de mauvaises surprises et qu'on puisse effectivement participer, pour qu'on puisse arriver au bout de cette opération, si possible, avec ce que va nous donner le promoteur qui va construire l'immeuble. Le but, c'est bien entendu d'avoir une opération blanche, c'est-à-dire que ça ne coûte pas plus à la commune que ce qu'on avait provisionné, ou pas trop en tout cas. Voilà. Et puis, bon, vous voyez, il y a la vidéoprotection, il y a des travaux sur d'autres bâtiments, du mobilier, du matériel, encore des travaux en régie. Et puis, bien entendu, les études. Alors, ça, les études, c'est là-dessus qu'on paye l'architecte, en fait. On ne le paye pas sur les travaux, on le paye sur le compte études. Alors, comment on finance cette somme qui est quand même importante? Eh bien, on la finance, on le voit, par 20% d'emprunt. Mais c'est ce que je vous expliquais, l'emprunt pour l'instant, c'est ce qui nous a servi à boucler, à équilibrer le budget. Mais il est bien évident que si la partie subvention est plus importante, on pourra réduire la partie emprunt. Ou si l'emprunt n'est pas si défavorable que ça, peut-être garder l'emprunt et se servir des subventions comme un autofinancement pour pouvoir relancer d'autres programmes.
En emprunt, on a 600 000 euros qui était l'emprunt 2023 qu'on n'a pas utilisé. Donc là, il est reporté automatiquement sur 2024 et on va le consommer. Et ce qu'on a mis sur l'hypothèse d'emprunt pour 2024, c'est 900 000 euros pour boucler le budget. Mais ça veut dire qu'effectivement, si on a une subvention qui arrive ou d'autres financements, on ne va pas aller chercher 900 000 euros pour se faire plaisir. Donc ça, c'était vraiment la variable d'ajustement.
Voilà.
Donc ça fait un poste emprunt au budget 2024 qui est de 1,5
million. Voilà. Les cessions de terrain pour 26%. Parce que là, on a effectivement, on a deux ventes importantes dont on va passer une convention là-dessus. C'est la vente du terrain du lycée Nord. Et puis, on a mis aussi la vente de, du Charpenais. Voilà, du Charpenais. Par contre, là, on a encore une autre vente, puisque vous savez qu'en septembre 2023, on va fermer Jean Massé. On va vendre le terrain de Jean Massé, mais là, pour l'instant, on ne l'a pas mis en recette encore, parce qu'on n'est pas complètement sûr de pouvoir le toucher sur l'année 2023. Et on ne peut inscrire au budget que les choses dont on est certain. Parce que pendant des années, ça a été un peu folklorique, les budgets, on mettait un peu ce qu'on voulait. Maintenant, si on inscrit quelque chose au budget, c'est qu'on a soit l'attribution de la subvention, auquel cas, soit le compromis de vente, et qu'on soit sûr de toucher budgétairement le chèque avant le 31 décembre 2024. Comme ce n'est pas le cas, pour l'instant, on ne l'a pas inscrit. Et puis les autres recettes, qui sont les recettes normales d'investissement, le fonds de compensation de TVA, sur les autres travaux, et les droits de mutation qu'on touche sur chaque vente. Donc vous voyez, on a réussi. C'est vrai qu'on a un budget d'investissement qui est important, mais on a les moyens. Enfin, on a les moyens. Oui, on a réussi à dégager de l'autofinancement. On a des cessions de terrain. Bien entendu, tout ça n'aurait pas pu se faire sans. Et puis, on a le plan de relance. Ça aussi, bien sûr, rien n'aurait été fait sans le plan de relance. On attend d'autres subventions et on reste dans une tranche d'emprunt qui est quand même très raisonnable. Parce que là, je ne voulais pas montrer, mais on l'avait fait quand on a fait le débat d'orientation budgétaire. Vous aviez vu que notre taux d'endettement diminue de façon importante. Et c'est ce qui est important. Il ne faut pas non plus trop endetter. En fait, tous les indicateurs dont se servent les banques pour savoir si elles prêtent ou pas à une commune, pour nous, sont plutôt au vert en ce moment. Il y a en 2020, elles étaient au rouge vif, et puisque même les banques en cours d'année avaient décidé de ne plus nous suivre et qu'on avait arrêté tous les investissements en en septembre de l'année. Voilà ce que je peux vous dire sur le budget. On va passer les délibérations qui sont techniques, mais qui sont obligatoires pour valider notre budget. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition. Non, pas de questions. Vous avez tout compris, c'est bien. Bon, ben, je reviens à ma place. Voilà, donc on va prendre toutes les délibérations hein, qui étaient prévues à l'ordre du jour. Donc la première, c'est l'approbation des comptes de gestion 2023, communes et services pompes funèbres. Alors je vous rappelle que les comptes de gestion sont les comptes qui sont tenus par la trésorerie principale, puisque la comptabilité communale est tenue d'un côté par nos services, bien entendu par la mairie, et puis de l'autre côté par la trésorerie. Et en fin d'année, on fait les comptes et normalement, on doit tomber sur les mêmes chiffres, parce que sinon, il sait qu'il y a un souci. Voilà. Donc d'un côté, on va approuver le compte de gestion de la trésorerie, qui reprend exactement les mêmes chiffres que les nôtres, et de l'autre côté, on approuvera le compte administratif de la commune. Donc, monsieur le maire Expo, je vous demande d'approuver les comptes de gestion 2023 de la commune de Saint-Priest-en-Jarret et du service des pompes funèbres, qui est dressé par le comptable public pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et qui est conforme au compte administratif soumis au vote. Les comptes de gestion sont consultables en mairie. Alors, si les comptes de gestion reprennent exactement les mêmes chiffres, donc on retrouve bien nos 10 439 les prévisions budgétaires en fonctionnement 10 439 000, 9 966 000 de titres de recettes émis, de réduction de titres 147 000. Donc les recettes nettes de l'exercice 2023 sont bien de 9 819 691 pour des dépenses de 9 038 321 000. Voilà. Et alors sur les pompes funèbres, c'est un budget qui est beaucoup plus réduit. Hein. Vous savez, c'est la gestion des caveaux, en fait, hein. Des caveaux qu'on construit et qu'on revend après. Alors là, on est sur des chiffres beaucoup moins modestes. Voilà, merci, je ne trouvais pas le mot. En investissement, ben, on a 665 000 euros déficit, mais ça, c'est normal parce qu'il y a des années où on construit beaucoup de caveaux, parce qu'on refait une extension du cimetière, parce qu'on commence à être juste. Et tous ces caveaux sont bien entendu pas vendus au même moment. Donc, on peut avoir un moment où on a déficit parce qu'on vient d'en faire beaucoup et on n'en a pas vendu beaucoup. Et en fonctionnement, on a un résultat de 781 369,68. Voilà. Et le résultat de clôture de l'exercice 2023 est de 224 181,36 sur l'investissement, puisqu'on avait un excédent à la clôture de 2022 de 890 000. Et en fonctionnement, on se retrouve avec un résultat de 3 118 222,57. Voilà. Ces chiffres-là, on les retrouvera bien entendu pour le compte administratif. Donc, si.
Donc vous avez compris que le compte de gestion, c'est celui qui est tenu par la trésorerie. D'ailleurs, il y a un projet, parce qu'il va voir le jour, de basculer en compte unique. C'est-à-dire qu'on n'est plus un compte mairie et un compte trésorerie. Bon, enfin, ça, on va voir au niveau des règles comptables. La seule difficulté en fin d'année, c'est de voir s'il y a des écarts et des justifiés. Hein. Donc c'est une comptabilité en partie double. La mairie est ordonnateur et le trésor public, le payeur. Donc qui est contre ce compte? Qui s'abstient? Qui est pour? Vraiment le choix. Merci.
Donc là, je vais demander à monsieur le maire de sortir parce qu'on va passer au vote du compte administratif. Et le compte administratif étant le résultat de la gestion de monsieur le maire sur l'année précédente, monsieur le maire ne doit pas participer au vote puisqu'il ne peut pas être jugé parti et voter ce qu'il a décidé. Voilà. Donc, sous la présidence de Madame Bisaccia, adjointe chargée de la préparation des documents budgétaires, le Conseil municipal va examiner le compte administratif 2023 qui s'établit ainsi. Donc, pour la commune, en section de fonctionnement, on a des dépenses, on reprend les mêmes chiffres, de 12 156 544,40 pour un montant de recettes de 9 038. Hein ? Oui. Ça me semble bizarre. Oui, c'est les... Il n'y a pas une erreur dans la délibération. Je crois qu'on a interverti les dépenses et les recettes. Hein, Frédéric? Oui, je crois bien. C'est l'inverse, en fait, hein, parce que là, ça... d'un coup, j'ai eu un coup de chaud, là. C'est plus un excédent de clôture, c'est un déficit, là. On était mal. Donc, oui, non, moi non plus. Je l'ai pourtant relu plusieurs fois, je ne l'ai pas vu. Donc, je reprends, c'est l'inverse. On a des dépenses pour 9 038 321,83 et des recettes pour 12 156 544,40. Donc, on se retrouve avec un excédent de clôture de 3 118 222,57. Il faut voter par section, Frédéric ? Non ? C'est bon ? Pour la section d'investissement, on a des dépenses pour 2 996 335,95 € pour un montant de recettes de 3 220 517,31 €. Donc on se retrouve bien avec un excédent de clôture de 224 181,36 €. Mais là, vous voyez qu'il y a une ligne supplémentaire, ça s'appelle le solde des restes à réaliser. C'est-à-dire que en fonctionnement, on arrête les comptes au 31 décembre, on remet tout à zéro et on repart sur l'année d'après. En investissement, comme les travaux sont sur plusieurs années, sur plusieurs exercices, sur un, deux, enfin sur deux ou trois, ça peut même être plus long, ce qu'on a prévu en 2023 et qu'on n'a pas dépensé, on les met dans ce qu'on appelle les restes à réaliser. C'est-à-dire c'est des sommes qu'on sait qu'on va dépenser puisqu'on les a prévues. Donc on les remet sur 2024 et ça, c'est donc ça ce solde reste à réaliser qu'il faut enlever, en fait, parce que c'est encore une dépense, de 122 766,65 €. Et on se retrouve, bien entendu, avec un excédent de financement de 101 414,71 €, qui ne correspond pas au chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, parce que dans le compte administratif, on ne met pas... Enfin, je n'ai pas pris les restes à réaliser. Donc, hors la présence de M. Servant, maire, je demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2023 pour la commune. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, qui votent pour ? Je vous en remercie. Alors, on fait la même chose pour le service des pompes funèbres. Le service des pompes funèbres, en section de fonctionnement d'exploitation, on a des dépenses pour 16 359,36 € et des recettes pour 17 740,02 €. Donc un excédent de clôture de 1 380,66 €. Et en investissement, on a dépensé 16 357,71 € pour 18 694,52 € de recettes. Donc on a un excédent de clôture de 2 336,81 €. Hors la présence de M. Servant maire, je demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2023 pour le service des pompes funèbres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on peut faire revenir Monsieur le maire. Bah oui, mais il n'a pas voté. Je suis sûr qu'il a tout écouté. Je dis oui, mais il n'a pas voté. Donc, le compte administratif de la commune et du service des pompes funèbres ont été adoptés à l'unanimité.
Eh bien, je vous remercie de ce vote de confiance. Merci.
Alors, maintenant qu'on a voté le compte administratif, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on a en plus ? On appelle ça l'affectation du résultat. C'est-à-dire, sur nos excédents, l'investissement et le fonctionnement, où est-ce qu'on va les affecter ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a une règle, mais dont on n'a pas besoin cette année. Donc on utilise obligatoirement, c'est que l'excédent de fonctionnement doit obligatoirement couvrir le montant du capital de l'emprunt. c'est-à-dire pratiquement 800 000 euros que vous avez vu qu'on doit payer en 2024 sur le capital de l'emprunt, celui-là, on ne peut absolument pas le financer ni par l'emprunt ni par autre chose. C'est l'excédent de fonctionnement qui doit le couvrir. Donc sur les 3 118 000, on a forcément au moins à peu près 800 000 euros qu'on va affecter. Mais il n'y a pas que ça. Donc, Monsieur le maire expose, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, puisqu'on a changé de système comptable, jusqu'à maintenant on était à la M14, c'est-à-dire on est passé à la M57, après avoir approuvé le compte administratif 2023, qui présente un excédent de fonctionnement de 3 118 222,57 euros, constatant que la section d'investissement du même compte administratif fait apparaître un solde positif d'exécution globale de 224 181,36 euros. Constatant que le solde des restes à réaliser se porte à moins 122 766,65 euros, c'est dans ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a un solde d'exécution globale pour l'investissement de 224 181,36 euros, auquel on enlève les 122 766,65 euros de restes à réaliser. Et donc on a un excédent d'investissement de 101 414,71 euros. Alors, conformément à l'instruction M57, il convient d'affecter l'excédent de fonctionnement de 2023 de 3 118 222,57 euros comme suit. En fait, cet excédent de fonctionnement, c'est au conseil municipal de décider ce qu'il en fait. Hormis de couvrir les 800 000 euros de capital d'emprunt, après, on peut en faire ce qu'on en veut. Soit on en passe une partie ou la totalité, si on voulait, mais c'est un peu dangereux, en investissement, soit on garde tout en fonctionnement. Sachant que ce budget n'est qu'un budget de prévision et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir forcément trop basculer du fonctionnement sur l'investissement, parce que ça fonctionne dans ce sens-là, dans la comptabilité publique. On peut transférer des sommes du fonctionnement à l'investissement, jamais l'inverse. Une fois que les sommes sont en investissement, elles y restent. Donc il vaut mieux prévoir dans un premier temps vraiment ce dont on a besoin, mais rien ne nous empêche en cours d'année, si on constate qu'on a un manque en investissement et qu'on peut piocher dans notre excédent de fonctionnement, de le faire en cours d'année. Donc c'est toujours des prévisions qui sont prudentes. Donc on va garder en fonctionnement sur les 3 118 000, on va garder 1 639 096 11. On va affecter à la partie investissement 1 479 126 46, dont les 800 000 euros pour le capital de l'emprunt. Et on garde bien sûr en investissement nos 224 181 euros 36. Voilà, c'est ce qu'on vous propose d'affecter. Donc on a affecté une bonne partie sur l'investissement, tout en gardant une somme quand même confortable, parce qu'il faut aussi penser aux excédents futurs, parce qu'il ne faut pas trop se démunir. Si jamais l'année prochaine, l'excédent est moins important, il faut qu'on garde quand même une partie, parce que si on garde pas suffisamment, au bout d'un exercice, voire de deux, eh ben on n'aura plus suffisamment pour rembourser le capital de l'emprunt. Et c'est exactement c'est ce qu'on appelle du surendettement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de financer le capital de l'emprunt par un autre emprunt. Donc, pas nous. L'État, oui, mais nous, non. donc voilà. Donc, on est resté prudent. On a pris vraiment ce dont on avait besoin pour équilibrer notre budget d'investissement. Mais on a quand même laissé une bonne part en fonctionnement.
Donc, vous avez compris quand même qu'on a fait une bonne partie en fonctionnement, donc en recettes. Donc, en fait, là, une fois qu'on aura affecté ces résultats, les 3 millions disparaissent, en fait, quelque part de notre comptabilité, puisqu'ils sont affectés. Ça veut dire aussi que si nos dépenses de fonctionnement augmentent trop et que nos recettes stagnent, c'est ça, en fait, cette affectation qui va nous permettre au moins de retrouver l'équilibre, voire, on l'espère, d'être excédentaire pour reconstituer à nouveau notre capacité d'autofinancement. Donc, qui est contre cette affectation de résultats? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est décidé à l'unanimité. Je vous en remercie.
Donc, on va faire la même chose pour le service des pompes funèbres. Donc, Monsieur le maire expose, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif 2023 qui présente un excédent de fonctionnement de 1380,66 euros, constatant que la section d'investissement du dit compte administratif fait apparaître un solde d'exécution globale de plus de 1336,81 euros, Conformément à l'instruction M57, il convient d'affecter l'excédent de fonctionnement 2023 de 1380,66 € comme suit. Et bien là, on ne s'est pas cassé la tête. On a gardé notre excédent de fonctionnement en fonctionnement. On reprend nos 1380,66 € et on reprend notre excédent d'investissement en investissement de 1336,81 € parce qu'on n'a pas besoin d'affecter une somme pour les pompes funèbres. Voilà.
Des questions ? Donc, qui est contre cette affectation, qui s'abstient, qui est pour. Donc, c'est décidé à l'unanimité. Je vous en remercie.
Alors, maintenant, on va voter les taux d'imposition. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a décidé d'augmenter de 0,5 point la taxe foncière. Donc, monsieur le maire expose, pour 2024, je vous propose d'établir les taux d'imposition comme suit. Taxe foncière bâtie, 39%. Donc, il était de 38,5% en 2023. La taxe foncière non bâtie, 88,11%. Alors, c'est un taux énorme, mais il y a très, très peu de gens qui sont soumis à la taxe. C'est vraiment l'impôt qui rapporte absolument rien, la taxe foncière non bâtie. En fait, tout au moins à Saint-Prié, hein, peut-être moins dans les communes rurales. Et la taxe d'habitation pour 10,02%, sachant que nous ne pouvons plus agir. Enfin, sur la taxe foncière non bâtie, on pourrait, mais sur la taxe d'habitation, dans la mesure où elle a été supprimée, on ne peut plus agir sur le taux. Et c'est une compensation de l'État qui a été arrêtée en 2018. Ce qu'on a touché en 2018 comme taxe d'habitation est désormais ce qu'on touche toutes les années. Donc c'est là aussi on peut avoir un peu d'inquiétude sur le dynamisme de cette compensation. C'est toujours pareil, la compensation elle se fait à un instant T, mais du coup il n'y a plus de dynamisme. S'il y a plus de population, on ne retrouve pas forcément des recettes supplémentaires. Donc le produit fiscal estimé pour 2024 et qui a été inscrit au budget primitif est de 4 245 000 €. Donc on a tenu compte de l'augmentation des bases et de l'augmentation du taux. Je vous demande de bien vouloir approuver les taux ci-dessus.
Alors déjà dans le taux de 38,5 qui passe à 39, je vous rappelle que c'est l'ancien taux communal plus le taux départemental qui ont été fusionnés par décision de l'État il y a maintenant 2 ans, 2 exercices fiscaux. Puisque quand on est arrivé, on a, nous, augmenté le taux local pour arriver à 20%. Ensuite, le 0,5 point de taux de cotisation, comme Michel l'a dit, ça représente une augmentation de 1,2%, ce qui nous devrait nous amener à peu près 63 000 € de recettes supplémentaires. Alors moi, j'ai fait le calcul, je vous l'ai dit, hein, pour ma taxe foncière, je paye 1 440 € par an. Le 1,2%, ça me fait 15 € par an d'augmentation, c'est-à-dire 1,30 € par mois. Donc voilà, aussi, il faut relativiser par rapport à certaines choses. Ensuite, la taxe d'habitation, et ça m'énerve un peu quand j'entends dire des élus, il me semble d'ailleurs que c'était des élus stéphanois, pour justifier les 15% d'augmentation de taxe foncière, que ben oui, c'est la faute à l'État parce qu'il n'y a plus la taxe d'habitation, c'est vrai, mais pour autant, on perçoit une compensation. Alors, ce n'est pas la compensation qu'on aurait si on avait fait évoluer les taux, c'est certain. Mais il y a quand même une compensation. Or, les gens s'imaginent qu'il n'y a plus du tout de financement de la taxe d'habitation. C'est faux. On l'a bien en recette sur une somme qui est globale et forfaitisée. Mais elle existe en termes de financement. Donc, qui est contre cette actualisation des taxes communales ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ces taux sont validés à l'unanimité et je vous en remercie.
Alors, délibération suivante. Vous avez vu que Jules Ferry est à part quand je vous ai présenté les camemberts, j'ai mis Jules Ferry à part parce qu'en fait, on a fait une autorisation de programme. C'est-à-dire qu'on a dissocié le programme de Jules Ferry des autres travaux de bâtiment pour pouvoir avoir une vision vraiment exhaustive et complète de ce que représente Jules Ferry. Parce que normalement, on a programme de bâtiment et ça aurait pu être noyé dans la masse de tous les programmes de bâtiment. Mais c'est plus pratique de faire comme ça un programme pluriannuel. Il y a un souci ? Non ? On vous demande une autorisation, donc c'est une autorisation de programme pluriannuel de l'extension et de la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry. C'est le bilan 2023. On reporte les crédits 2023 qui n'ont pas été utilisés et on modifie l'autorisation de programme initiale et la répartition des crédits de paiement. C'est-à-dire qu'on avait fixé une première somme sur ce programme-là en disant que ça coûtait telle somme. comment on allait la répartir sur l'exercice 2023 et sur les exercices suivants. On a été obligé d'augmenter le montant du programme initial parce que, bien entendu, comme c'est toujours quand on construit ou quand on rénove quelque chose, on a toujours des surprises et pas jamais dans le bon sens. Alors, Monsieur le maire expose, par délibération numéro 230306 du 27 mars 2023, le Conseil municipal a adopté le principe de recours au vote d'une autorisation de programme et crédit de paiement pour la gestion pluriannuelle des investissements liés à l'extension et à la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry comme suit. Donc, la première autorisation de programme était pour un montant de 4 834 341 euros. Avec des paiements pour 2023 de 2 070 372,37 et pour 2024 de 2 763 968,63 euros. Donc le bilan annuel, ça c'était ce qu'on avait décidé au départ quand on a décidé l'autorisation de programme. Le bilan annuel de l'exécution de l'autorisation de programme et des crédits de paiement 2023 pour les investissements toujours liés à l'extension et à la réhabilitation, non pas du Clos Bayard, il y a une erreur, mais de l'école Jules Ferry. Ça, c'est le truc des copier-coller de Jules Ferry. Était bien entendu toujours en 2023 de 4 834 341. On a fait des crédits de paiement. Bon, on a gardé 2 070 372,37 et on a toujours 2 763 968,63, sachant qu'on a réalisé en crédit de paiement pour 2023, 1 563 804,61. Vous voyez, on n'a pas atteint le chiffre qui avait été prévu. Le maire propose, vu les articles, alors je vous fais grâce des numéros, du Code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'article du Code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, vu le décret du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'instruction M57, considérant que l'avancement des travaux, c'est ce que je vous disais, nécessite l'ajustement des crédits ouverts par l'autorisation de programme initial, hop, c'est par là, l'approbation du bilan annuel de l'exécution de l'autorisation de programme, le report des crédits de paiement non utilisés en 2023 d'un montant de 506 567,76 € sur l'exercice 2024, la différence entre ce qui était prévu et ce qu'on a réellement dépensé, la révision du montant de l'autorisation de programme en portant le montant total de l'autorisation de programme à 5 291 167,72. On est donc passé de 4 834 000 à 5 291 000 euros. De 5 291 167,72 euros. Donc, on a payé en crédit de paiement en 2023 1 563 804,61. Donc, les crédits de paiement de 2024 vont être de 2 763 968,63. Donc, les crédits qui ont été ouverts par délibération la première, plus les 506 567,76 qui sont ce qu'on n'a pas dépensé en 2023. Donc, ça fait 3 270 536,39, je commence à... Plus le solde du montant supérieur des autorisations de programme révisées, 456 000, ce qu'on a ajouté dans l'autorisation de programme, les 456 826,72, ça fait un montant de crédit de paiement autorisé pour 2024 de 3 727 363,11. C'est-à-dire qu'on a pris les crédits qu'on avait déjà ouverts, on a rajouté ce qu'on n'a pas dépensé et on a rajouté ce qu'on a déjà ajouté à l'autorisation de programme initial. Donc, ça fait bien un montant de crédit de paiement de 3 727 000. Voilà.
Des questions par rapport à ça? C'est vraiment simplement un ajustement sur 2 ans. Et c'est surtout aussi un ajustement qui permet de payer les fournisseurs. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, ces autorisations de programme sont validées. Je vous en remercie. On passe maintenant au vote des budgets.
Excusez-moi, mais il manque une délibération. Merci. Alors, Donc, Monsieur le maire expose que, vu le débat d'orientation budgétaire que je vous avais présenté lors de la réunion du Conseil municipal du 12 février 2024, vu la commission des finances qui s'est réunie le 12 mars 2024, vu le projet de budget primitif que je vous ai présenté, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2024 arrêté comme suit. Donc là, on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour la commune, dépenses et recettes de fonctionnement, 10 032 069. Pareil, est-ce qu'il faut qu'on vote par section? Non? Parce qu'il me semble qu'une année, on avait été... Non, on n'avait pas eu de soucis. Non, bon, j'ai cru. Et dépenses et recettes d'investissement pour 7 588 234,91.
On va déjà donc voter le budget de la mairie tel qu'on vient de vous le présenter. C'était bien sûr la présentation qu'avait fait Michel auparavant sur l'écran. Des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le budget 2024 de la mairie est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Pour le service des pompes funèbres, donc dépenses et recettes d'exploitation, pour 17 030,89 €, et des dépenses et recettes d'investissement pour 16 357,70 €.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le budget des pompes funèbres pour 2024 est adopté à l'unanimité et je vous en remercie.
En fait, je voulais pas présenter en détail, mais il y a rien. En fait, en détail, il n'y a pas de détail, puisqu'en fait, on met simplement l'argent dont on a besoin pour éventuellement créer des caveaux supplémentaires et les recettes qui y seront bien entendu affectées lorsqu'on les aura vendues. Voilà.
Alors pour les budgets, je vous rappelle simplement que ce sont des sommes affectées au moment où on vote le budget. Il est bien évident qu'en cours d'année, en fonction des évolutions et des besoins, on peut être amené à vous présenter des budgets modificatifs.
Voilà. Et alors, la dernière délibération qui concerne tout le compte administratif et le budget, c'est pour le budget primitif 2024 du service des pompes funèbres, il faut voter l'avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget principal. Alors, Monsieur le maire expose, le budget annexe des pompes funèbres est un budget qui utilise de manière obligatoire la comptabilité de stock. Comptabilité de stock, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en fait dans la commune, qu'on fait par exemple si on a un lotissement. C'est-à-dire qu'on compte ce qu'on a dépensé pour faire les caveaux et on est obligé de comptabiliser le nombre de caveaux qu'on construit et on comptabilise le nombre de caveaux qu'on va vendre dans l'année. C'est ce qu'on appelle une comptabilité de stock. Alors, c'est une comptabilité un peu différente de la M57. Je ne suis pas très très au point là-dessus, donc ne me posez pas trop de questions, ça m'arrangera. En fait, ce n'est pas compliqué, on fait des dépenses et des recettes, mais on est obligé de conserver dans le budget les stocks, en fait. On est obligé de les faire apparaître. Voilà. Le budget annexe des pompes funèbres donc, est un budget qui utilise de manière obligatoire la comptabilité de stock, notamment au niveau du suivi dans la vente des caveaux modulaires. C'est la section d'investissement qui retrace la comptabilité en compte de classe 3. Bon, ça, c'est de la compta pure. On constate un déficit d'investissement en période de stockage, lorsqu'il y a achat de caveaux. Ce déficit se résorbe en période de déstockage, c'est ce que je vous disais, lorsqu'on vend les caveaux. Il n'y a jamais d'excédent d'investissement pour ce type de budget, bien qu'on vous ait quand même donné des chiffres d'investissement. Bon, on n'en tient pas compte. L'excédent de fonctionnement de ce budget retrace la plus-value réalisée, le cas échéant, lors de la vente des biens. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une plus-value, c'est qu'on a vendu, parce qu'on les vend pas forcément au prix coûtant, on les a vendus un peu plus cher que ce qu'on a pu les payer. Comme dans toute comptabilité, la reprise des résultats est obligatoire chaque année au niveau des prévisions budgétaires, ce qui pose le problème des variations de stock d'une année sur l'autre. Afin de présenter un budget des pompes funèbres équilibré, il convient de prévoir une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget de la commune. En fait, ce qui se passe, c'est que si effectivement on a vendu plus de caveaux si on a reçu plus de recettes que de dépenses, on ne peut pas garder cet excédent. Il faut que ce soit équilibré dans la comptabilité de stock. Donc, pour que le budget suivant soit équilibré, en fait, on fait une avance au budget de la commune, puisqu'en fait, c'est la commune qui a payé les travaux de pompes funèbres. C'est un budget qui est à part, mais qui est financé par la commune. Donc, si vous voulez, pour qu'il soit équilibré, on remet ce qu'on a encaisser en plus ou le déficit. Ça peut être pareil, hein, ça peut être la commune qui peut, s'il y a un déficit, rembourser le service des pompes funèbres. C'est pour que ce soit équilibré. Mais de toute façon, ça sort de la même caisse, c'est-à-dire ça sort du budget communal. Donc, afin de présenter un budget des pompes funèbres équilibré, il convient de prévoir une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget de la commune. Et cette avance sera chaque année réajustée, bien entendu, en fonction des achats et des ventes de caveaux modulaires de l'exercice précédent. Il est donc demandé au conseil municipal d'inscrire les crédits suivants. Au budget primitif 2024 des pompes funèbres, une dépense d'investissement au compte 1687 remboursement autres dettes d'un montant de 2 336,81 €, en fait, qui correspond à l'excédent d'investissement que je vous ai présenté tout à l'heure. Et au budget primitif de la commune, une recette d'investissement au compte 276,38 € créance d'autres établissements publics d'un montant de 2 336,81 €. Voilà. C'est une mécanique en fait qui permet d'équilibrer le budget.
Donc il y a un excédent sur le résultat arithmétique, hein, des pompes funèbres. Cet excédent, il est reversé simplement à la mairie. Voilà. Pour équilibrer. Et s'il y avait eu un déficit, le mouvement serait fait dans l'autre sens. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on le vote, mais là aussi ce sont des mécaniques comptables auxquelles on ne peut pas s'opposer. Hein. On le vote, mais c'est la mécanique qui le veut. On va passer maintenant à la situation du NEC. Je passe la parole à Christine Gazins.
Bonsoir. Donc, je vais vous parler de l'activité 2023 pour le NEC. Au titre de la saison 23-24, c'est-à-dire cette saison, le NEC a recueilli 839 abonnements à ce jour. Je vous rappelle qu'à la fin de la saison précédente, le nombre d'abonnés était de 739. Nous avons 100 abonnés de plus cette année. L'origine géographique des abonnés est la suivante. 281 pour Saint-Priant-Jarret, c'est-à-dire à peu près un tiers. 162 abonnés pour Saint-Étienne, soit 19%. 121 abonnés pour Villars, soit 14%. Si on additionne ces trois communes, ça nous fait 67% des abonnés sont donc originaires de la commune de Saint-Étienne, Villars et de Saint-Prié. Sur la saison 2023-2024, le NEC a proposé 18 spectacles tout public, 3 spectacles jeunes publics, 2 grands reportages et 6 spectacles pour le Festival de théâtre amateur. Je vous rappelle d'ailleurs que le lancement pour la saison prochaine aura lieu le 28 mai à 11h et 19h. Donc vous pouvez déjà vous inscrire. Le résultat financier. En 2023, la recette de billetterie était de 93 349 €. La subvention municipale représente 47% des recettes d'exploitation. En dépenses, l'achat des spectacles atteint 559% des charges d'exploitation. La location de matériel technique pour les spectacles se positionne à 7% et les droits de production, dont la SACD, à 9%. En 2023, le résultat d'exploitation est déficitaire. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un déficit. Il est de 6 479,53 €. Le déficit de 2023 est en partie lié à l'absence pour maladie de Renaud Jalon, c'est un régisseur du NEC, qui nous a contraint à l'embauche régulière d'un intermittent supplémentaire pour assurer la technique de nos spectacles et les mises à disposition de la salle, et aussi pour les associations, etc. Le coût employeur dû à cette absence s'élève à 4 510,42 €. Quant aux excédents cumulés après affectation du résultat 2023, ils s'établissent à 123 665,74 €. Parce que nous avions des excédents sur les années passées, donc même avec un déficit cette année de 6 400, il nous reste quand même 123 665,74 €. Au budget primitif 2023, on avait provisionné 75 000 € de billetterie. Et en fait, on en a réalisé 24% de plus. On constate que les spectateurs sont de retour au NEC. On s'aperçoit que le mode d'achat du billet a changé depuis le Covid. Les spectateurs achètent plus de places à l'unité et le nombre de places achetées sur la billetterie en ligne est en constante augmentation. Le fait qu'on ait une billetterie en ligne, les gens en profitent, surtout ceux qui travaillent, ils peuvent s'abonner directement. Au vu de la baisse de subvention de 2 000 euros cette année et de l'augmentation du coût des spectacles, c'est-à-dire le prix de session et VHR, voyage, hébergement et repas, le prix des billets à l'unité des abonnements sera augmenté de 1 euro pour la prochaine saison. Comme lors de l'absence de Renaud Jalon, les problèmes de santé de Jean Offray entraîneront une augmentation du coût des charges du personnel pour la saison prochaine. Voilà.
Donc, compte tenu des excellents résultats du NEC, malgré le déficit de cette année, la mairie a diminué de 2 000 euros la subvention annuelle. Mais je vois que moins 2 000 et en face, mettre 1 euro de plus par le nombre de places, vous allez encore faire de l'excédent.
C'est pas du tout sûr, parce que là, avec Jeannot...
Non, mais je suis bien d'accord. Donc voilà, l'idée, c'est que le NEC a son mode de fonctionnement. Les résultats en termes de retour des spectateurs est très appréciable. Alors, c'est vrai qu'ils ont changé leur mode de consommation. C'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus de réservations en ligne. Hein. Donc là aussi, ça marche bien. Et donc, on réduit de 2 000 euros la subvention, mais je pense que là aussi, le NEC arrivera, en augmentant de 1 euro la place, de compenser cette perte de recettes. Avez-vous des questions? Donc, vous avez quand même compris que Arnaud était longuement malade et il se remet. Renaud, pardon. Longuement malade et il se remet tout doucement, parce qu'il est à 80% aujourd'hui, je crois, c'est ça, hein? Bon. Maintenant, c'est Renaud qui va. C'est Jeannot. Oui, c'est Jeannot.
Okay. C'est Jeannot qui est...
C'est la formulation qui m'a un peu troublée. Donc, Jeannot qui est maintenant arrêté, là, et sans doute pour une période assez longue, il va falloir que le NEC fasse justement à cette problématique de régisseur et avoir recours à des intermittents au gré des besoins. Voilà. Des questions par rapport à ça? Donc, je vous demande simplement, donc, de voter une subvention totale de 83 000 euros à la régie de gestion du NEC pour l'exercice 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la subvention est validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, on rentre dans les questions d'administration générale. C'est l'ensemble des décisions du maire. Donc vous les avez toutes, là, hein, telles qu'elles sont présentées. Il y a l'actualisation des loyers, je dirais plutôt que c'est des indemnités d'occupation d'un certain nombre de nos agents dans les bâtiments qui sont à côté de l'école, et puis des contrats. Vous avez une décision, c'est le marché avec MDR Architectes Associés, Minard, Rosan. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la Bargette, parce que même si on ne va pas au fond du projet, bien évidemment, il nous faudra payer les honoraires de l'architecte. Vous avez des contrats d'entretien des espaces verts avec le CDAT, et puis des assurances et d'autres contrats en cours. Des questions par rapport à ces décisions? Donc là, il n'y a pas à les voter, puisqu'elles ont été prises. C'est tout simplement une information. Le point suivant, tu sais où je le fais? C'est l'état des acquisitions et cessions immobilières pour 2023.
Effectivement, toutes les années, Monsieur le maire expose que l'article de 2241 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, et ce, dans le but d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Donc, ci-dessous, on a mis un tableau. Donc, acquisition, nous, on n'a acheté aucun terrain. Par contre, on a vendu trois terrains qui sont situés rue Jean Moulin, enfin deux terrains rue Jean Moulin, pour une régularisation, parce que les personnes avaient fait des travaux sur une partie qui était municipale, en fait. Donc, plutôt que de leur faire démolir ce qu'ils avaient fait, il a été quand même plus simple de leur vendre la partie de terrain qui ne leur appartenait pas. Donc, un pour 60 000 euros, l'autre pour 35 000. Sur le terrain du Charpenais, on avait passé il y a quelque temps on avait accepté de vendre à la société Les Lotisseurs de la Loire un terrain au Charpenais Ce lotisseur n'a pas réussi à avoir le financement dont il avait besoin pour aller au bout de son projet, puisqu'il devait, pour avoir son prêt, commercialiser au moins une partie c'était cinq maisons, hein, c'est ça ? Oui, le projet était de 5 maisons. Il devait en avoir au moins vendu une partie. Il n'a pas réussi, donc la banque n'a pas suivi. Donc, effectivement, on a annulé le compromis de vente qui était de 265 000 euros. Donc, ça, c'était prévu, mais ça ne se fera pas. Et on a vendu rue Gutenberg et avenue Mendès France à la société, ça c'est le terrain du lycée Nord, hein, ce qu'on appelle, à la société SAS Innovi, pour 385 000 euros pour les espaces verts et 1 395 000 pour la parcelle AO 81. Mais vous savez que ces terrains ne sont qu'une partie de ce qui va se vendre, puisque l'autre partie a fait l'objet d'une délibération, mais qui pour l'instant n'apparaît pas
donc,
ici.
Donc là, vous avez 1,7 million pour le terrain du lycée Nord, en tout.
Hein. 1,7 million pour le terrain du lycée
Nord.
En
encaissement.
Voilà. Donc, c'est les seules sessions qu'on a faites sur...
Vous avez mis en vente un terrain aussi, hein. Rue de Réosti.
Ah, pardon.
Un terrain non bâti, mais qui n'a pas... On l'avait mis dans un système d'enchères, mais qui n'a pas abouti à ce jour.
Okay, voilà.
Vraisemblablement parce qu'il est proposé à un prix trop élevé.
Trop élevé, voilà.
Donc, là aussi, hein, c'est un constat donc, qui est contre... qui s'abstient, qui est pour, donc on valide les sessions de 2023. Des sessions, mais on a rencontré ce matin des personnes qui venaient pour nous proposer d'acheter un terrain. Donc on n'a pas donné suite. Je ne sais pas dans cette logique-là aujourd'hui. Le point suivant, c'est l'accord transactionnel, on y arrive. Voilà. Alors, c'est le lycée Nord, 1,7 million. Bon, on va essayer je ne vais pas vous présenter l'ensemble du protocole, sachant que je vous ai dit tout à l'heure qu'à 18h45, c'était la question 24 de l'ordre du jour de la ville de Saint-Étienne, ce protocole a été validé par le conseil municipal de la ville de Saint-Étienne à l'unanimité. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AO 80, celle dont on vient de parler, d'une surface totale de 6 336 m², 6-1 rue Gutenberg, qu'elle souhaite céder à un tiers pour la réalisation d'un projet immobilier. Plus précisément, cette vente concerne une partie des terrains non utilisés pour le lycée et ses équipements. En effet, en 1982, la ville de Saint-Étienne a cédé à la commune de Saint-Priest-en-Jarret un tènement immobilier d'une superficie totale de 40 714 m², 6 avenue Albert-Raymond. Cette cession, faite à la demande et à l'initiative de la ville de Saint-Étienne, était consentie à titre gratuit afin de permettre l'implantation d'un lycée, de ses annexes et des équipements sportifs rattachés à cet établissement scolaire. L'acte de vente conclu en 1982 comportait deux conditions particulières à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, dont une résidait dans l'accord préalable de la ville de Saint-Étienne pour la vente d'une ou plusieurs parties du bien vendu qui ne seraient pas affectées à la construction du lycée. La commune de Saint-Priest-en-Jarret a assumé la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction du lycée et de ses équipements annexes, et la gestion administrative et financière de ses équipements annexes jusqu'à leur rétrocession à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le maire de Saint-Priest-en-Jarret a informé le maire de Saint-Étienne du souhait de vendre une partie des terrains non utilisés pour le lycée et ses équipements. Si le maire de Saint-Étienne a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la perspective d'une cession, c'était sous condition notamment d'une répartition du prix de cession entre les deux communes. Bien évidemment, avant d'engager ces négociations, nous avions eu la validation par la région que nous pouvions céder ce terrain. Les deux collectivités, donc Saint-Priest et Saint-Étienne, avaient des divergences d'interprétation quant à la portée de l'acte conclu en 1982, notamment s'agissant de la possibilité pour Saint-Priest-en-Jarret de disposer du reliquat de terrain sans reversement d'une partie du prix de cession à la ville de Saint-Étienne. Par délibération du 12 décembre 2023, le conseil municipal de Saint-Priest-en-Jarez décidait de la vente à la société Innovie de la parcelle AO81 pour un montant de 1 315 000 euros. Malgré cette délibération, la ville de Saint-Étienne ne renonçait pas à la possibilité de faire valoir devant le juge, le cas échéant, les droits qu'elle estimait pouvoir tirer des conditions dans lesquelles la cession de 1982 a été consentie à la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Par la suite, les deux communes se sont rapprochées et sont convenues de la conclusion d'un accord transactionnel afin d'éviter un contentieux long et empreint d'un aléa judiciaire pour chacune des collectivités territoriales. Au terme de ce protocole, la ville de Saint-Étienne valide la cession de la parcelle considérée et la commune de Saint-Priest-en-Jarez verse une somme de 400 000 euros correspondant à environ 30% du produit de la cession. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la conclusion entre la ville de Saint-Étienne et la ville de Saint-Priest-en-Jarez du projet de protocole transactionnel annexé au présent rapport. En conséquence, de m'autoriser ou mon représentant à signer ledit protocole transactionnel et toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Vous avez vu que dans le protocole, il est dit que nous verserions les 400 000 euros à la ville de Saint-Étienne dans les 2 mois qui suivent le paiement du terrain par la société Innovie. Donc voilà, c'est un dossier que vous avez suivi avec des répercussions, des rebondissements, des prises de position, des rencontres entre cabinets d'avocats. D'ailleurs, l'acte de cession sera rédigé par notre avocat. Avez-vous des questions par rapport à cette situation qui enfin trouve une issue, je dirais pas intelligente, mais qui nous permettra d'avancer. Donc on va mettre au vote le principe du vote de cette convention partenariale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le projet de convention est validé à l'unanimité. Et je vous en remercie. Le point suivant. C'est un dossier qu'on vous propose parce que ça nous a semblé intéressant de s'engager sur cette voie. La SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif de Travail Temporaire, Alliance Solutions RH, qui s'appelle MyCop & Co, a pour finalité de rendre un service collectif à ses membres. Ce service premier prend la forme d'actions de recrutement, de placement, de développement d'un vivier mutualisé de personnel non permanent. L'adhésion à la SCIC de travail temporaire Alliance Solutions RH s'effectue moyennant l'achat d'une part sociale de 3 000 euros récupérable selon les conditions prévues. Afin de pallier la pénurie de compétences et de faciliter la gestion du personnel non permanent au sein des services de la commune, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la ville de Saint-Priest-en-Jarez à la SCIC de travail temporaire Alliance Solutions RH située 145 rue de la Monta à Saint-Étienne, et de m'autoriser à signer le bon de souscription au capital, d'engager les dépenses afférentes à cette adhésion. Donc vous savez que notre souci, qui avait été mis en évidence d'ailleurs lors du rapport de la Chambre régionale des comptes en 2018, était qu'on avait un pôle renfort avec des personnes qui étaient en contrat précaire, puisque c'était des contrats horaires. Ils pouvaient travailler quelques heures par mois ou un mois complet. On a depuis beaucoup de difficultés à recruter des personnes dans ce cadre-là. Et là, l'intérêt de cette entreprise d'intérim, qui est sous forme coopérative, c'est justement d'avoir des personnels spécialisés dédiés aux besoins des collectivités. Donc essentiellement, pour nous, dans nos besoins, je dirais, réguliers, du personnel de ménage. Qui puisse intervenir tôt le matin et avoir les amplitudes de ménage comme l'ont nos agents techniques. Donc voilà, c'est pour pallier à ces difficultés de recrutement qu'on vous propose d'adhérer à cette forme de société. Oui, Corinne Mourgue.
Corinne Mourgue, juste, c'est une adhésion d'exclusivité ou tu peux, par exemple, quand même continuer à recruter en dehors de ce dispositif?
Alors, il n'y a pas d'exclusivité. d'exclusivité. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir très rapidement du personnel opérationnel, alors qu'actuellement, là, on ne se posait pas la question, quoi. On recevait des candidatures, des CV, on regardait un peu les profils, et puis, ben, bien sûr, on contactait les gens si ça nous intéressait, avec toujours l'argument de dire c'est du contrat horaire, précaire, si vous trouvez un CDD ou un CDI, bien évidemment, vous pourrez partir. Alors, c'est vrai que ce pôle renfort a été aussi un point d'entrée pour nos personnels, parce qu'on a du personnel aujourd'hui qui est titulaire, qui est passé par ce goulot d'étranglement, contrat horaire, après c'est du remplacement de salariés absents pour maladie, longue maladie ou maternité, et puis quand on a des postes qui devenaient vacants, on les proposait en priorité au personnel du pôle renfort. Et aujourd'hui, ce pôle renfort est quasiment devenu inexistant. Donc là, c'est la possibilité d'avoir très rapidement du personnel pour une journée, deux journées, 15 jours, 3 semaines ou un mois, puisqu'en fait, c'est une entreprise d'intérim. Mais qui s'inscrit dans une démarche, je dirais, sociale. D'autres questions par rapport à ça? Bon, écoutez, est-ce que vous validez donc l'adhésion à la SCIC de travail temporaire Alliance Solutions RH? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous validons cette adhésion. Donc on achète un bon de participation à hauteur de 3 000 euros qu'on récupérera après en fonction de nos sollicitations. Le point suivant, déplacement d'Emma. Tu le fais, Jacques, donc je le fais comme tu veux. Allez. Donc, le point numéro 13. Le conseil municipal, donc je vous expose qu'il y a lieu d'envisager des travaux de déplacement de deux mâts devant l'école Jean Massé, conformément à ses statuts, l'article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau. Le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc le coût du projet actuel, le déplacement des deux mâts, est de 3 355 euros, ramené à 92% puisqu'on bénéficie d'une participation du ciel, ça nous ferait 3 086 euros. Ces contributions sont indexées sur l'indice TP12. Je vous demande donc de bien vouloir demander au ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de déplacement des deux mâts devant l'école Jean Massé dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole, direction voirie, je crois. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel territoire d'énergie est effectué en une seule fois et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Donc, c'est comme d'habitude, des déplacements qu'on confie au ciel territoire d'énergie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On valide cette mission à confier au ciel. Il y a également lieu d'envisager des travaux d'éclairage rue Jules Ferry. Conformément à ses statuts, donc, le ciel peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc là, le coût du projet pour ce qui est de l'éclairage rue Jules Ferry, 22 755 euros, ramené à 20 934 euros, puisqu'on bénéficie de 8% de remise. Balisage 5 passages, 13 936 euros, ramené à 12 821 euros. Donc pour un total de 36 691 euros, ramené à 33 755 euros. Là aussi, ces contributions sont indexées sur l'indice travaux publics 12. Et je vous demande de bien vouloir demander au ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage de la rue Jules Ferry, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, les dossiers me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel territoire d'énergie est effectué en une seule fois et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Il s'agit donc des travaux de réhabilitation de la rue Jules Ferry Vous avez eu des messages comme quoi cette rue va être coupée pendant plusieurs semaines pour la réfection des conduites d'eau et d'assainissement. Ensuite, il y aura la réfection de la voirie et des trottoirs et l'installation de nouveaux luminaires. C'est un complément dans le cadre du dossier Jules Ferry, bien évidemment. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette demande au ciel est validée. Je le fais, Mireille, après, vous le faites ? Non, c'est bon ? Non, que ça. Donc, je le fais. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de notre politique sociale visant à améliorer les conditions d'accès à une couverture des frais santé, la commune souhaite accompagner l'accès aux dispositifs suivants à disposition des habitants. Donc une première proposition, c'est Ma Commune, Ma Santé, qui est portée par l'association Axiom, et la seconde, Ma Santé, portée par AXA France. L'objectif est d'offrir la possibilité aux Mounards de souscrire à une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels, sans aucune charge ou participation de la commune. La convention Ma Santé avec AXA France, approuvée l'an dernier lors de la séance du conseil municipal du 27 mars 2023, est arrivé à échéance et je vous propose donc simplement de la renouveler. Et je vous demande d'approuver la convention jointe et de m'autoriser à la signer. Donc c'est la reconduction pour un an de la convention avec AXA. Pour Axiom, on n'a pas vraiment de nouvelles. Ils étaient très actifs tout au début et puis après j'ai l'impression qu'ils se sont fatigués. Alors que AXA sont là régulièrement. Je crois que c'est la semaine dernière, ils étaient encore là toute une journée. Donc qui s'oppose, qui est contre ce renouvellement ? Qui s'abstient, qui est pour, donc on valide le renouvellement à la société AXA France. Il nous avait aussi proposé d'ailleurs un deuxième contrat sur une, c'était plus de la complémentaire santé, mais c'était un contrat perte d'autonomie quatrième âge. On leur a dit que ça ne s'inscrivait absolument pas dans le cadre d'une complémentaire santé municipale. Donc on a dénoncé le fait de pouvoir conventionner avec eux sur cette thématique. Et maintenant, Michel va nous parler de la RAZ.
Le RAZ, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Alors auparavant, c'était quelque chose qui était financé par l'État. Et bon, encore une fois, l'État s'est désengagé de ce genre de choses, de ce financement. Et l'année, il y a déjà 2 ans, on avait signé une première convention avec eux, avec la mairie de Villars et de Saint-Étienne, pour pouvoir continuer. En fait, le RAZ, le bureau est situé à Villars, pour pouvoir continuer en fait à effectivement aider nos enfants, les enfants qui sont scolarisés sur notre commune, à pouvoir bénéficier de ce réseau qui permet à des enfants en difficulté de voir des psychologues, d'avoir des choses adaptées. Enfin voilà, c'est pour nous, c'est quelque chose qui est important. Donc on avait accepté de financer entre 2022 et 2023. Et là, ils nous demandent bien entendu de renouveler encore pour 2 ans cette convention. Alors, monsieur le maire expose, vu la circulaire numéro 2014-107 du 18 août 2014 sur le fonctionnement des RAZ et missions des personnels qui exercent, l'éducation nationale dispose des réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. L'objectif de l'école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, en assurant pour chacun d'eux les conditions de sa réussite. La difficulté inhérente au processus même d'apprentissage est prise en compte par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe. Toutefois, l'aide apportée par l'enseignant avec l'appui de l'équipe pédagogique peut ne pas suffire pour certains élèves. Dès l'école maternelle, certains élèves attirent l'attention des enseignants car leur attitude, leur réponse aux consignes et leur adaptation à la vie collective révèlent des difficultés susceptibles de nuire à leur avenir scolaire. À l'école élémentaire, des élèves ne parviennent pas à répondre aux attendus des programmes. Pour cela, les RAZ rassemblent des psychologues et des professeurs des écoles spécialisées. Ils sont membres à part entière de l'équipe enseignante des écoles où ils exercent. Ils interviennent auprès des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en petit groupe. Pour fonctionner, ces intervenants ont besoin d'outils pédagogiques afin d'accompagner au mieux les élèves. Pour cela, les communes peuvent attribuer chaque année des crédits spécifiques pour les RAZ. L'équipe du RAZ intervient dans les écoles des communes de Villars, Saint-Prié-en-Jarret, Létra, La Tour-en-Jarret et une partie de la ville de Saint-Étienne. Afin de doter l'équipe du RASED d'un budget unique regroupant les crédits de chaque commune, il est proposé de reconduire la convention de financement pour la période 2024-2026 entre les communes de Saint-Priest-en-Jarret, Lettras, La Tour-en-Jarret, Saint-Étienne et Villars, avec les conditions identiques à la convention 2020-2023. Dans le cadre de cette nouvelle convention dont un exemplaire est joint à la présente délibération, la commune de Villars est désignée en qualité de coordonnateur. La participation des communes est fixée à 1 euro par élève scolarisé en école maternelle et élémentaire. Le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la dite convention de financement du RASED pour la période 2024-2026 avec les communes de Lettras, La Tour, Enjarret et Saint-Étienne, et d'autoriser M. le maire à la signer pour une durée de 3 ans à compter de la date de la signature.
Des questions? Il y a Villars aussi, hein, c'est Villars. D'accord. D'accord. Il supervise. D'accord. Des questions par rapport à ça? C'est la reconduction là aussi d'une convention de partenariat entre l'éducation nationale et les communes concernées. Oui.
Oui, juste une précision, Claude Bruno. Ce ne sont pas toutes les écoles de Saint-Étienne hein, là, qui sont concernées. Hein. C'est uniquement une petite partie de Saint-Étienne. Hein. C'est... Il y a plusieurs réseaux sur Saint-Étienne.
Donc, qui est contre la reconduction de cette convention ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, elle est reconduite. C'est à toi après.
Mieux. On va parler de l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2024. En effet, si vous vous rappelez qu'on avait eu une période où la semaine scolaire avait été ramenée allongée à 4 jours et demi, ce qui nous avait fait mettre en place l'étape, tout ça, et qu'on avait abandonné assez rapidement cette organisation parce que c'était relativement coûteux pour la commune et ça ne satisfaisait pas forcément ni les enseignants, ni les enfants, ni les parents. Donc, lors de la séance du 5 février 2018, le conseil municipal avait établi un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Or, cette convention, elle avait été signée pour 4 ans. Donc, afin de préparer la rentrée, pour 3 ans, afin de préparer la rentrée scolaire 2024, les horaires des écoles doivent être arrêtés, c'est-à-dire qu'on doit se repositionner pour la rentrée 2024. Vu le code de l'éducation, article D521-10 et suivant, vu le décret numéro 2020-632 du 25 mai 2020, considérant les intérêts des élèves de la commune, puisque voilà, on avait pensé que c'était mieux comme ça, après consultation des parents d'élèves, des enseignants et des conseils d'école, chaque école a consulté les parents d'élèves délégués. Il y a 2 écoles qui ont fait un conseil d'école extraordinaire pour ça. Et à l'unanimité, la reconduction de la semaine de 4 jours a été votée dans chaque école. Les horaires en vigueur donnant satisfaction sur les plans pédagogiques et éducatifs ont vocation à être prolongés. Donc, on vous demande d'émettre un avis favorable à la reconduction de l'organisation dérogatoire à 4 jours dans les écoles à la rentrée scolaire 2024 pour une durée de 3 ans. Parce qu'effectivement, officiellement, l'organisation est toujours à 4 jours et demi, mais il y a un système dérogatoire auquel on avait adhéré et qu'on vous propose de reconduire.
Donc, qui est contre cette décision, qui s'abstient, donc qui est pour, là on ne fait qu'entériner le souhait de l'éducation, enfin des enseignants et des parents d'élèves. Merci. Le point suivant. Lors de la séance du 11 décembre 2023, le conseil municipal a exprimé un avis favorable à la fusion des groupes scolaires Jean Massé et Jules Ferry pour la rentrée scolaire 2024-2025. Afin de favoriser son appropriation tant par les usagers que par les habitants de la commune, un processus de concertation visant à la proposition du nom de ce nouveau groupe scolaire a été mis en place, association les élèves, leurs familles et les habitants. Donc, je demande au conseil municipal de formuler son choix parmi les propositions et également à se prononcer sur la dénomination des voies d'accès à ce nouveau groupe scolaire. Donc, Frédéric va vous distribuer un bulletin de vote sur lequel vous avez 4 noms. Issus des discussions qu'on avait eues samedi en séminaire, Marie Curie, Léonard de Vinci, Robert Badinter et Jules Verne. Je vous demande donc de rayer les 3 noms que vous ne choisissez pas. Pendant ce temps-là, on va évoquer la dénomination d'un autre site, puisqu'il y a un nouveau chemin sur la commune qui circule entre le parking du NEC, le parvis nouvellement créé derrière le NEC et qui va desservir l'accès au jardin d'enfants, au relais d'assistantes maternelles et au périscolaire, et qui continue ensuite pour desservir les gardenomes. Donc là aussi, il y a un nouveau cheminement, et là, samedi, en conseil, en séminaire municipal, nous avons décidé de nommer ce sentier le chemin des Matrues. Donc là, on a décidé entre nous, donc on n'a pas besoin de voter. Et donc maintenant, ben, vous votez, c'est-à-dire que Frédéric va passer avec le petit carton, récupérer vos papiers. Oui, alors ben, pour ceux qui ont des procurations, ils peuvent voter deux fois, s'ils le souhaitent. Les personnes qui sont là, qui ne sont pas élues, il faut savoir qu'on a eu à peu près 80 noms de proposés qui émanaient soit de personnes sur Internet, Facebook. On avait également une petite boîte qui était à la médiathèque, donc on a eu pas mal de propositions. Et également des groupes d'élèves qui nous ont fait passer des petites enveloppes avec des suggestions. Et puis après, des personnes qui directement par mail nous ont fait part de leurs préférences. Donc on va dépouiller.
Donc, en fait, vous savez que dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle la carte scolaire, c'est-à-dire qu'on prend le plan de la commune et en fonction du nombre de groupes scolaires qu'il y a, on affecte une partie de la commune sur un groupe scolaire et une partie de la commune sur un autre ou sur des autres, s'il y en a beaucoup. Tout ça pour pouvoir répartir de façon équitable les enfants scolarisés sur les groupes scolaires qui sont proposés. Donc, on avait fait ça par délibération du 2 juillet 2012. Le conseil municipal avait approuvé la carte scolaire qui comprenait 3 secteurs, un pour chaque école. Et compte tenu qu'on ferme le groupe scolaire Jean Massé à la prochaine rentrée, la carte scolaire doit bien entendu être modifiée puisque maintenant on n'a plus que deux secteurs en fait, ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. En fait, on est parti du principe que, bien entendu, tous les enfants de l'école Jean Massé, qui sont scolarisés à Jean Massé, vont bien entendu remonter sur Jules Ferry. Là, il n'y a pas de discussion possible. Mais afin de veiller à une certaine équité entre les groupes scolaires et pas, par exemple, par cette nouvelle affectation systématique du secteur Jean Massé, le rattacher systématiquement à Jules Ferry, et tout ça pour pas défavoriser Georges Sand, parce que Georges Sand, on connaît pas l'évolution des effectifs de Georges Sand. On sait déjà que sur l'année 2024, on va avoir à ce jour une baisse des effectifs. Après, on est qu'en mars et on sait qu'il y a des mouvements de population jusqu'au jour de la rentrée. On a décidé de créer une zone tampon. En fait, on va garder les trois parties de la carte scolaire, celle de Jules Ferry, celle de Georges Sand. Là, il n'y a pas de souci. Mais sur les conseils de l'inspection académique, en fait, qui nous a conseillé de faire ça, pour justement garder un œil sur l'évolution des effectifs de Georges Sand, on va garder le secteur de l'école Jean Massé comme ce qu'on appelle une zone tampon. C'est-à-dire que les gens... Alors, ça concernera bien entendu que les nouveaux arrivants ou que les gens qui ont des enfants qui viennent de rentrer à l'école, un premier enfant qui rentre à l'école. Parce que, bien entendu, s'il y a des enfants qui sont sur Jean Massé qui vont sur Jules Ferry, si le petit frère arrive en petite section, on va pas lui dire non, toi, tu vas à Georges Sand. Bien entendu, c'est un suivi scolarité, c'est une fratrie, c'est automatique, tous les enfants vont sur le même groupe scolaire. Mais pour des gens qui vont arriver ou qui vont avoir un premier enfant qui va arriver, on va lui dire, bien entendu, qu'on l'inscrit, mais on attendra un petit peu l'évolution des effectifs de Georges Sand pour affecter soit sur Jules Ferry, soit sur Georges Sand, les gens qui sont actuellement dans le secteur de Jean Massé. Parce que ça nous permettra éventuellement d'équilibrer les effectifs et de ne pas surcharger Jules Ferry et d'avoir des classes qui sont trop importantes et au contraire de garder une certaine souplesse. Donc je vous propose de conserver la zone de Jean Massé comme zone tampon. Donc je reviens à la délibération. Afin de garder une souplesse dans l'affection des nouveaux élèves, on les aime bien, mais c'est surtout qu'on va les affecter. Dans l'affection des nouveaux élèves, pour assurer la pérennité des deux groupes scolaires restants, la carte scolaire comportera désormais une zone tampon correspondant à l'ancienne sectorisation de l'école Jean Massé. Les deux autres secteurs ne sont pas changés. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la carte scolaire jointe à la présente et d'autoriser monsieur le maire à la mettre en application. La carte scolaire telle que proposée s'applique pour la rentrée scolaire 2024-2025. Et je voulais juste vous donner juste une petite information que j'ai eue cet après-midi. Apparemment, au vu des effectifs qui sont pour l'instant déclarés sur Jules Ferry et Jean Massé, il y aurait l'année prochaine 286 élèves sur Jules Ferry, 195 en élémentaire, 91 en maternelle. Et il y aurait donc 4 classes de maternelle pure à l'école maternelle et 8 classes d'élémentaire, ce qui ferait une moyenne de 24 élèves par classe. C'est l'affectation que m'a donnée Mme Tolot cet après-midi, une moyenne de 24 élèves par classe, et ce qui est bien, puisque de toute façon, grande section CP-CE1, c'est c'est l'effectif maximum. C'est dans ces 3 classes qui sont vraiment des classes d'acquisition de choses. Des connaissances indispensables, là, c'est limité à 24. Mais là, en l'occurrence, ça serait 24 élèves par classe. Alors, c'est bien entendu pas figé dans le marbre, c'est en fonction Peut-être des familles qui vont partir, d'autres familles qui vont arriver. Les effectifs, ils bougent jusqu'au jour de la rentrée scolaire, hein, parce qu'il y a, il y a toujours des gens qui oublient de s'inscrire. Ils mettent leur enfant, ils disent « Ah, ben, il n'est pas inscrit, c'est bizarre. » Voilà, et puis des gens qui s'en vont, des gens qui partent. Voilà. Mais à ce jour, ça serait plutôt pas mal, parce qu'on aurait vraiment 4 maternelles pures sur l'école maternelle.
4 classes.
4 classes. Oui, enfin, 4 maternelles pures. Je veux dire, il n'y aurait pas de CP grande section qui resterait à l'école maternelle pour l'instant.
Voilà. C'était une de nos craintes. On a une classe double niveau, grande section CP, et qu'elle soit localisée dans le bâtiment de l'école maternelle, ce qui peut poser des problèmes après pour les récréations, des choses comme ça. Là, on a donc une répartition des classes par niveau. Donc 4 classes au niveau maternel et 8 classes au niveau élémentaire. L'affectation nominative des élèves dans ces classes, pas nous qui nous donnons notre avis, c'est l'éducation nationale qui va travailler dessus pour répartir les élèves. On aura sans doute des classes de double niveau sur l'élémentaire, et c'est donc l'éducation nationale, en collaboration avec les enseignants, la directrice et le directeur, qui va faire cette répartition. Voilà. Non, je sais. Donc maintenant, on vous demande on va mettre au vote la problématique de la zone tampon. Donc vous avez compris que c'est une variable d'ajustement. Une nouvelle famille arrive pour inscrire un enfant à l'école, et bien en fonction, qui serait normalement sur le secteur de Jean-Massé, en fonction des besoins et de la répartition par classe, on les orientera ou vers l'école Jules Verne ou vers l'école Georges Sand. Donc qui est contre cette zone tampon? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on la met en place pour répondre aux besoins à venir. Le point suivant, c'est Claude qui va nous en parler avec la convention avec Citeo.
Alors, Citeo, je suppose que peu de personnes connaissent ce qu'est Citeo. C'est un groupement d'associations qui était beaucoup plus connu avant sous le nom d'éco-emballage. C'est une somme qui est versée par les entreprises, par tous ceux qui produisent du déchet, pour que ces déchets puissent être effectivement retraités derrière. Donc, en application du principe, monsieur le maire expose qu'en application du principe de responsabilité élargie des producteurs, ce qu'on appelle les REP, avant REP c'était les réseaux d'éducation prioritaire, mais visiblement ça concerne aussi cette chose-là. Les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion des déchets de ces emballages à un éco-organisme. C'est ce que je vous expliquais, hein, qui était connu avant sous le nom d'éco-emballage, beaucoup plus que Citeo. Ce dernier perçoit des contributions de ses adhérents et qui lui permettent de financer les collectivités pour pouvoir traiter ces déchets ménagers. J'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont indiquées. Tout ça avec le nettoiement des déchets, des emballages ménagers abandonnés. En effet, par arrêté du 30 septembre 2022, c'est relativement récent, le cahier des charges d'agrément de l'éco-organisme agréé Citeo a été modifié, notamment pour intégrer, pour encadrer la prise en charge des coûts visant au nettoiement et à la réduction des déchets abandonnés sur l'espace public. Je vous fais grâce des articles. Les coûts à couvrir ne concernent que les déchets abandonnés diffus issus des produits relevant de l'agrément de Citeo. Par ailleurs, la couverture des coûts de nettoiement des dépôts illégaux de déchets abandonnés fait l'objet d'un dispositif distinct prévu par le Code de l'environnement. Donc, à cette fin et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation, emballage ménager de la commission des filières REP, Citeo a élaboré une convention type, la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Cette convention est proposée à toutes les communes et groupements de communes à fiscalité propre ayant en charge la gestion des déchets issus des produits d'emballage relevant de son agrément et qui sont produits dans le cadre d'opérations de nettoiement. La convention prévoit également des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets dans l'environnement. Alors, justement, pour ce qui nous concerne, nous, c'est Saint-Étienne Métropole qui est en charge de la gestion des déchets. Et c'est dans ce cadre-là qu'on interviendrait. Sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, les actions pour prévenir et traiter les déchets abandonnés diffus relèvent des compétences des communes et de la métropole. Alors, le nettoiement des communes, le ramassage de ces déchets est assuré par les communes. Et après, c'est traité par Saint-Étienne Métropole. C'est collecté et traité par Saint-Étienne Métropole. Les communes, elles ont donc cette compétence en matière de propreté des espaces publics et assurent le ramassage des corbeilles de rue et le nettoyage des chaussées, trottoirs, parcs et jardins municipaux. Et Saint-Étienne Métropole, elle est compétente en matière de gestion de ces déchets. Donc, par délibération du 21 décembre 2023, le Conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a approuvé le principe de former un groupement avec les communes volontaires pour établir avec Citeo une convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Saint-Étienne Métropole serait mandataire du groupement et les soutiens lui seraient donc versés par Citeo, charge à Saint-Étienne Métropole de les répartir entre les collectivités mandantes conformément à la convention de mandat à intervenir. Alors cette convention, elle n'est pas encore complètement définie, elle est en cours d'élaboration. Mais elle ne se fait qu'avec les communes qui se seront officiellement déclarées volontaires. La proposition présente l'avantage de désigner un agent de Saint-Étienne Métropole comme responsable unique lutte contre les déchets abandonnés diffus et permet l'élaboration d'un plan unique de lutte contre les déchets abandonnés. Ce sont deux exigences de la convention. Pour l'ensemble du territoire formé par les communes volontaires, elle permet légalement de concevoir à l'échelle de la métropole des outils communs pour l'information, la communication et la sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménager dans l'environnement. Je vous fais grâce. Il faut qu'elle intervienne avant le 31 mars, cette signature, et on est aujourd'hui le 25. Les actions qui sont soutenues sont celles réalisées à compter de la date de prise d'effet de la convention jusqu'au 31 décembre 2025. Et la convention expire à la date de versement du solde au titre de la dernière année de convention. Je vais essayer quand même de vous faire grâce d'un certain nombre de choses. Il est demandé... Le Citeo verse un soutien financier, selon le barème de l'article 4.7b de son cahier des charges. Alors, cette somme, elle est de 4,3 euros par habitant et par an pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants. Saint-Étienne, et 3,2 euros par an et par habitant pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents, ça nous concerne, et 0,9 euros par habitant pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants. Il est évident que le problème de ces déchets diffus est totalement différent à Fontanet et à Saint-Étienne. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de participer au groupement constitué par Saint-Étienne Métropole, qui est le mandataire, et des communes volontaires pour établir avec Citeo une convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que, de toute façon, aujourd'hui, ce travail est effectué par la municipalité. Les agents nettoient et on ne touche rien. Alors, quand bien même le reversement par Saint-Étienne Métropole ne serait que de, je veux dire, n'importe quoi, 50 centimes par habitant, ça remplacerait le rien du tout actuel. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de soucis à se faire là-dessus, d'autant que, pour l'instant, on verra par la suite comment ça évoluerait, il est bien noté que c'est un versement qui se fait uniquement au nombre d'habitants. Il n'y a pas, visiblement, de compte à rendre de comptabilité, je vais dire, de ces déchets à rendre à Saint-Étienne Métropole.
Je crois qu'on ne peut pas aller contre un projet. Il va falloir, par contre, Frédéric, se dépêcher. Il faut qu'on signe avant le 31. On va leur notifier simplement que le Conseil s'est déclaré favorable, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, je pense qu'au-delà d'un projet qui vise à nous faire rémunérer un petit peu le nettoyage de nos rues, de notre commune, c'est aussi quelque part, on verra les vecteurs de communication, la sensibilisation des uns et des autres. Quand on est à côté d'une poubelle, c'est pas la peine de jeter son verre de McDo ou sa boîte en carton à côté, quoi. Voilà. Très bien, merci. Maintenant, je vais vous parler, moi, de l'action sociale en faveur du personnel communal pour 2024. Alors là, c'est une décision qu'on vous présente chaque année. C'est une revalorisation des barèmes de participation. La revalorisation pour cette année est à hauteur de 6%. Donc, en date du 4 janvier 2024, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique disposent des prestations d'action sociale susceptibles d'être accordées au personnel communal au titre de l'année 2024. Donc, pour les enfants handicapés, c'est une allocation de 183 euros. Et les séjours en centre de vacances spécialisés de 23,96 euros par jour. Pour les séjours d'enfants, c'est 8,40 euros pour les enfants de moins de 13 ans et 12,70 euros pour les enfants de 13 à 18 ans. En centre de loisirs sans hébergement, la journée complète 6,06 et la demi-journée 3,06. En maison familiale de vacances et en gîte, pour en pension, la pension complète, c'est 8,84 euros et les autres formules, 8,40. Pour les séjours mis en œuvre dans un cadre éducatif, le forfait pour 21 jours ou plus, c'est 87,05 euros. Et les séjours d'une durée inférieure par jour, de 4,14 euros. Et pour les séjours linguistiques, pour les enfants de moins de 13 ans, c'est 8,40 euros par jour. Et les enfants de 13 à 18 ans, 12,71 euros. Et je vous demande de bien vouloir reconduire ces mesures en faveur du personnel communal, telles que définies ci-dessus. C'est une participation dans le cadre des actions sociales en faveur des personnels. C'est un barème national qui s'applique. Des questions ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Donc, à l'unanimité, nous allons le valider. Il y a un dernier point qui n'était pas à l'ordre du jour officiellement, mais qui a été distribué sur place. Et je vais passer le micro à Antoine Di Paolo pour nous parler de la convention pour la prise en charge des animaux errants et blessés.
Bonsoir. Monsieur le maire expose. La police municipale est souvent sollicitée pour des animaux errants ou en état de divagation blessés, afin de permettre une rapide prise en charge de ces animaux pour leur apporter les premiers soins vétérinaires. Je vous propose de signer une convention avec la clinique vétérinaire des Bulles Vertes à Lettra. Cette clinique vétérinaire assurera également l'identification et la stérilisation des chats errants en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Les services proposés par la clinique vétérinaire des Bulles Vertes et les tarifs sont précisés dans la convention jointe. Donc, vu la convention avec 30 millions d'amis, entre sous-signés la commune de Saint-Priest-en-Jarret, représentée par son maire, M. Christian Servant, dénommée ci-après la commune, et la clinique vétérinaire des Bulles Vertes, 542 avenue de Verdun, 42580 Lettra, il est convenu ce qui suit. La commune en charge de le vétérinaire, la commune, pardon, charge le vétérinaire de stériliser les chats errants recueillis sur son territoire, dans le cadre des conventions signées avec 30 millions d'amis. L'animal sera relâché sur son lieu de capture. Le vétérinaire s'engage, après avoir examiné l'animal et notamment vérifié son identification, ses actions réalisées sous anesthésie, à stériliser les chats errants. La stérilisation consiste en la castration des mâles et ovariectomie ou ovario-hystérectomie pour les femelles. Le vétérinaire interviendra non seulement pour l'intervention chirurgicale des chats visés à l'article 2 de la présente convention, mais également pour l'euthanasie éventuelle des animaux présentés accidentés, blessés ou des soins de première intention visant à soulager la douleur de l'animal après accord préalable de la mairie et à sa charge. Le vétérinaire ne pourra procéder à l'euthanasie d'un animal malade que s'il juge son état incompatible avec sa survie après accord écrit du maire ou d'un représentant, après envoi d'un courrier électronique à vétérinaire des Bulles Vertes ou du représentant de l'animal si ce dernier a été identifié. Le vétérinaire effectuera une marque définitive afin d'indiquer que l'animal a été stérilisé et identifié. Dans le cadre de la convention de 30 millions d'amis, un tatouage auriculaire signifiant puce électronique sera effectué. Le vétérinaire procédera à l'identification de l'animal par puce électronique, comme l'exige la loi. L'animal sera identifié au nom de la Fondation 30 millions d'amis en cas de prise en charge par la Fondation et au nom de la commune pour les autres cas. Il incombe à la commune de restituer à son propriétaire un chat capturé qui serait déjà identifié l'anesthésie nécessaire à la vérification de l'identification de l'animal est à la charge de la commune. Les prestations seront facturées par la clinique vétérinaire à la commune, conformément au présent contrat, au vu du registre établi par celle-ci, sur les bases financières suivantes. Alors, l'identification électronique, c'est 2,16 IO. IO, c'est l'indice ordinal 2024 qui a été fixé par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires à 16,63 € hors taxe. Castration des mâles, anesthésie comprise, 3,65. Ovariectomie des femelles, anesthésie comprise, 5,93. Ovario-hystérectomie des femelles, anesthésie comprise, 7,14. Euthanasie, anesthésie comprise, 3,77. Crémation, 3,47. Anesthésie, 1,64. Ce qui implique les tarifs pour l'année civile 2024 s'établissent donc à identification électronique, 43,11 € TTC, castration des mâles, anesthésie comprise, 72,85 € TTC, ovariectomie des femelles, anesthésie comprise, 118,36 € TTC, ovario-hystérectomie des femelles, anesthésie comprise, 142,51 € TTC, euthanasie, anesthésie comprise, 75,25 € TTC, crémation, 43,10 € TTC, anesthésie, 32,73 € TTC. Les parties reconnaissent se conformer à cet indice ordinal revalorisé annuellement pour la fixation du montant des honoraires. Le restant dû, suite à la prise en charge de la Fondation 30 millions d'amis, est à la charge de la commune. En amont de chaque intervention, la mairie s'engage à transmettre un ordre de mission écrit par mail à Vétérinaire Les Bulles Vertes afin de confirmer le nombre d'animaux confiés au vétérinaire et à la nature de la mission qui lui est confiée. Cette convention prend effet à partir du 9 mars 2024 jusqu'au 31 décembre. Cette convention prend effet à partir du 20 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Si l'une des parties souhaite y mettre fin, elle le fera savoir par courrier recommandé 3 mois avant l'échéance. Toute demande relative aux prestations non mentionnées précédemment fera l'objet d'une tarification au tarif habituel.
La convention, elle prendra effet à aujourd'hui. Ouais. Décision du Conseil, pas le 20 mars, donc le 25.
Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la convention précitée et d'autoriser M. le maire à la signer.
Des questions par rapport à ça? Donc, c'est une convention qu'on signe avec un cabinet vétérinaire de l'ETRA selon les modalités qui sont précisées dans la convention. C'est bon? Donc, qui est contre? Qui? Contre, un contre, Corinne Mourg. Oui.
Corinne Mourg, je trouve que ça déresponsabilise les citoyens. Donc évidemment, j'ai compris que la convention est obligatoire, mais je ne comprends pas le principe. Ah, je n'adhère pas.
D'accord, donc un contre. Qui s'abstient? Deux personnes, Jacques Pellegrin et Rémi Mounier. Et donc la convention est adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Donc, on a fini l'ordre du jour de ce conseil. Deux petits points d'information. Donc, il y aura bien sûr le 8 mai, jour férié, les commémorations. Donc, ça sera sans doute en matinée vers 10h30 ou 11h. On vous le précisera ultérieurement. Quant au prochain conseil, il est prévu le 13 mai à 19h en salle du conseil. Voilà, donc le conseil est fini et je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne soirée.